Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie. Je suis Frédéric, le F de Girafe, et je suis très heureux de vous retrouver pour mon émission Autour d'eux. Comme vous le savez maintenant, autour d'experts, d'étudiants, de talents, d'acteurs du Havre, de la Normandie et d'ailleurs, autour d'un thème ou d'un sujet. Aujourd'hui, l'objectif est de donner l'opportunité à des étudiants du Havre de parler de leur parcours, leurs études, l'univers métier et les compétences qu'ils acquièrent et qu'ils activeront dans leur futur job. Je reçois donc aujourd'hui Maëva et Rodson, étudiants en master à la Manu, campus du Havre. La Manu est une école d'enseignement supérieur préparant au métier du digital. Bonjour Maëva, bonjour Rodson.
Bonjour Frédéric.
Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, de prendre un petit peu de temps sur vos emplois du temps que je sais très chargés, et pour nous parler de vos trajectoires, des compétences que vous avez acquises et des métiers vers lesquels vous allez vous diriger. Alors, vous êtes donc en master, en spécialisation data intelligence artificielle, sujet on ne peut plus d'actualité. Alors avant de commencer notre échange, et notamment d'approfondir un petit peu sur ce que sont et ce qu'est votre spécialité, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos parcours respectifs pour commencer, Rodson ou Maëva, comme vous voulez.
Pour ma part, après mon bac, je suis très fouillé un peu. Mm-hmm. Et après, j'ai commencé à prendre un peu de formation de gauche à droite. Et d'accord. J'ai fait une formation en langage des signes américaine, qui équivaut à un BTS. Mm-hmm. Et après, j'aimais bien l'informatique, mais je faisais des formations, c'était pas vraiment concret. Mm-hmm. Et après, j'ai trouvé la Manu, je suis ici depuis ma première année jusqu'à aujourd'hui.
D'accord, donc tu as commencé dès le départ ici à la Manu.
C'est ça.
Après une formation en langage des signes.
C'est ça.
Très intéressant comme parcours. En tout cas, pas commun.
Bien évidemment.
Maëva, quelques mots sur ton parcours?
Ouais, moi de mon côté, j'ai fait un BTS service informatique aux organisations, mm-hmm. donc à Saint-Jean, qui est une école au Havre,
oui,
aussi.
Mm-hmm.
Ensuite, je suis allée un an au Canada faire une double diplomation.
D'accord.
Et en revenant, j'ai intégré une école d'ingénieurs que j'ai dû quitter par souci de santé. Mm-hmm. Et quand j'étais prête à reprendre les études, je me suis dirigée vers la Manu.
D'accord. Ouais. Parcours aussi intéressant avec cette dimension internationale, interculturelle, d'avoir vécu un an au Canada. Est-ce que tu peux, juste avant d'approfondir un petit peu sur nos sujets, nous dire quelques mots sur ton expérience canadienne et notamment... les différences que tu as pu constater entre la façon d'apprendre ici en France et la façon d'apprendre au Canada, est-ce que tu as vu des différences?
Je pense que oui, c'est différent. Au Canada, déjà, c'était pas des notes sur 20, par exemple, mm-hmm. c'était sur 100. Puis
et la relation prof-étudiant,
c'était beaucoup plus fluide, on va dire.
D'accord.
C'était moins rapport d'autorité.
Oui, c'était moins hiérarchique comme approche. Donc, tu en es revenu non seulement double diplômée,
oui.
mais satisfaite de ce
c'est
parcours.
C'est ça, et j'ai eu le prix au gala de l'excellence.
Voilà. Bravo, félicitations.
Merci.
Félicitations, tu as laissé une belle trace au Canada, bravo. Pour approfondir un petit peu, ou en tout cas préciser un petit peu, comment ces études sont devenues votre projet? Qu'est-ce qui a été le moteur chez vous deux pour vous pencher véritablement vers ces univers métiers? Rodson?
Pour ma part, les compétences requises à travers une combinaison de formation académique et d'expérience en entreprise, c'est-à-dire d'auto-formation. Et notamment, notre formation master, nous sommes en alternance, bien évidemment. Mm-hmm. Et je suis en alternance chez Total Energy. Cela me permet d'appliquer concrètement mm-hmm. mes connaissances en gestion de projet, data et IA, notamment sur l'optimisation de l'intégrité technique, qui est l'aspect sur lequel je travaille le plus.
D'accord. Et alors, effectivement, quand on est un peu... Quand on est étudiant en alternance, on mm-hmm. est un peu à la fois étudiant et salarié, et voilà, déjà mm-hmm. dans le monde du travail.
Bien évidemment.
Est-ce que c'est facile à gérer pour toi, dichotomie ou cette double personnalité à gérer?
Personnellement, je dirais au début c'était pas facile, mais après je m'habitue, ça va. Bon. Mais avec l'expérience chez Total, c'est plus différent. Enfin, c'est encore un peu un cap plus au-dessus mm-hmm. de l'alternance là où ce que j'étais avant.
D'accord.
Là, j'ai plus de responsabilités et notamment les projets sur lesquels je travaille, c'est très concret.
D'accord.
Donc ça va, j'arrive à tenir.
Bon. Et Maëva, pour toi?
Moi, en fait, au lycée, je savais pas vraiment vers quoi me diriger. Et mon cousin, qui est ingénieur en informatique, m'a parlé d'un langage en particulier qui est le C. Mmh. Donc je me suis auto-formée et j'ai adoré.
Alors est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Parce que pour moi, c'est du chinois.
C'est un langage de développement
d'accord.
pour faire des applications, par exemple. Okay. Et c'est un langage...
informatique, c'est un des, qui permet oui, de développer ça. Des logiciels.
Il fait partie un peu des plus compliqués, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de notions à comprendre, etc. Mmh. Donc ça m'a plu, donc je me suis dit pourquoi pas, je suis allée là-dedans, ça m'a encore plus plu.
Bon.
Et en revenant du Canada, je voulais être en alternance aussi, parce que pour moi c'est une vraie chance de pouvoir appliquer les connaissances qu'on a en cours dans le monde du travail, dans le monde réel.
D'accord. Et donc si on s'intéresse précisément à votre spécialité, puisque elle est commune à vous deux, data et IA, comment vous la définiriez ? Qu'est-ce que c'est de faire des études de data IA et ensuite d'exercer un métier dans le data ou IA ?
Ben, c'est bien, en fait, en plus de notre métier, on ne fait pas que du data et de l'IA, on fait aussi tout ce qui est partie gestion de projet. Et ouais. tout ça, ça nous permet d'allier et de comprendre ce que c'est déjà de la data, de comprendre l'humain. Et la data, ça aide dans beaucoup de choses. Et l'IA, notamment aussi, ça nous aide dans beaucoup de choses. Donc personnellement, ça me plaît beaucoup.
Donc il y a des apprentissages, je dirais, verticaux et puis des apprentissages transversaux. Comme la gestion de projet, par exemple, ça vous sert à plusieurs
Exactement.
Activations de compétences. Et ensuite, vous avez cette partie verticale sur ce qu'est vraiment le métier de l'IA, le métier de la data, et ainsi de suite.
Exactement.
Après, pour toi, Maïva ?
Moi, je suis d'accord avec ce que Rotsan a dit. Je peux rajouter que c'est en constante évolution. Donc, c'est pas quelque chose auquel... on va avoir les bases, mais il faut toujours se renseigner...
Oui.
Pour être à jour, en fait. Mmh. C'est très important.
C'est de l'apprentissage continu, finalement.
C'est ça, exactement. C'est ça.
Continue. Mmh. Donc, en gros, on peut dire que vous sortez de cette école avec une belle boîte à outils dont vous allez pouvoir vous servir pour démarrer vos carrières, mais vous allez continuer d'apprendre.
C'est ça.
Et c'est sans doute dû, j'imagine, au fait que la discipline que vous abordez, qui est donc notamment l'IA et le numérique et le digital, sont des disciplines très dynamiques qui bougent tout le temps.
Ouais. Exactement.
Donc, ce qui nécessite d'être au fait.
Oui, c'est ça.
De cette évolution.
On doit faire de la veille continuelle.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et justement, puisqu'on parle de ça, les compétences de base, cette fameuse boîte à outils nécessaires que vous allez avoir en sortant de l'école, vous les apprenez comment ici au niveau... Alors, on a bien compris qu'il y a celles que vous activez déjà dans le cadre de l'entreprise, mais ici, à l'école, comment ça se passe ? Est-ce que c'est plutôt en mode théorique ou en mode pratique ?
Alors, on va avoir beaucoup plus de pratiques. Si on prend, par exemple, sur deux journées, on peut avoir une demi-journée avec de la théorie, puis le reste en pratique.
D'accord.
Et à la fin, on doit présenter ce qu'on a fait. Et on marche beaucoup par mini-projets. On a, je ne sais plus si c'est 4 ou 6 mini-projets dans l'année.
Oui, c'est un peu ça.
C'est ça. Donc, faut qu'on les développe en groupe et on les présente pendant un oral.
D'accord.
Et dans les autres matières aussi, on a des oraux.
D'accord. Donc, et vous êtes, en fait, c'est une forme de mise en situation,
Exactement.
De reconstitution de la vie professionnelle
Exactement.
Que
ouais.
vous côtoyez en plus dans le cadre de votre de votre apprentissage en entreprise. D'accord. Si on parle un peu d'avenir, quels sont les métiers qui vous attendent à la sortie de l'école et quels seront les futurs métiers que vous pouvez déjà peut-être vous futurs spécialistes, experts de ces sujets-là. Que vous pouvez imaginer et qui n'existerait peut-être pas encore. Alors, si on parle déjà des métiers qui existent, qu'est-ce qui vous attend à la sortie ?
À la sortie, on a le choix de ce qu'on veut faire. On peut par exemple dire data scientist, data engineer, développeur MOA, il y en a...
D'accord, alors si on les prend les uns après les autres pour que ceux qui nous écoutent comprennent un peu, quelle est la différence entre un data scientist et un data engineer ?
Data engineer, il structure la donnée, et data scientifique, il analyse de la donnée.
D'accord, ok. On comprend mieux la différence. Quels sont les métiers qui vous attendent à la sortie de l'école, et quels seront, selon vous, les futurs métiers, si on peut déjà les envisager, si vous pouvez, vous, déjà les envisager, liés notamment à cette fameuse révolution technologique de l'intelligence artificielle ?
Bah, il y a tous les métiers... autour du développement, en fait, parce qu'on aura toujours les bases. Et après, il y aura les métiers plus spécialisés. Donc, Rodson a parlé des data engineers, data analysts, data scientists. Et je pense que ce qui va émerger aussi beaucoup, c'est les ingénieurs QA, donc ceux qui vont s'occuper de tester, de faire les tests. Mm-hmm. Et je pense que c'est important, notamment dans l'intelligence artificielle, parce que c'est pas parfait, ça fait des erreurs. Oui. Et il y a notamment aussi des billets qui existent.
Ouais, ouais, bien sûr.
Donc c'est important de contrôler.
Très bien. Quelles sont les questions suivantes? C'est un peu lié d'ailleurs à ce que tu viens de dire. C'est de savoir, bien sûr, quelles sont ses compétences techniques, mais aussi les compétences humaines indispensables qu'on doit détenir, selon vous, pour exercer un métier lié au digital, au numérique, et en particulier dans votre spécialité.
Moi, pour ma part, je dirais la communication et la vulgarisation. La communication, parce qu'on travaille avec d'autres personnes et tout. Et pour tout ce qui est vulgarisation, c'est pour expliquer avec des termes plus simples ce que nous faisons.
D'accord.
Tout à l'heure, Maëva a parlé du langage C, mais ça peut être tout autre chose, par exemple des concepts que nous utilisons. Mmh. Et pour que d'autres personnes puissent comprendre, on va utiliser des concepts assez simples pour vulgariser.
Oui, d'accord. Donc c'est une œuvre de pédagogie et de pouvoir ainsi travailler ensemble entre différents univers métiers. Pour certains, effectivement, l'informatique, ça peut paraître très complexe et très éloigné.
C'est ça.
Et donc, il y a ce rôle que vous devez jouer de compréhension. Si on s'intéresse aux types de structures qui sont susceptibles de faire appel à vos compétences, quelles sont-elles? Quelles sont les structures? Ça va de la petite start-up au grand groupe international, j'imagine.
Exactement. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin d'informatique, que ce soit du simple site web à une intelligence artificielle qui va aider dans certaines tâches ou dans la science, des choses comme ça. Que ce soit dans le public ou dans le privé, il y a besoin d'informatique.
Donc c'est vrai. Oui, il n'y a pas de type de structure restreinte.
Non,
ou prédéfini, tout le monde en a besoin, en gros.
Exactement. On peut aller où on veut, si on peut dire.
Et tant mieux pour vous. Ça vous laisse l'embarras du choix.
C'est ça.
En tant que jeunes étudiants, en master dans cette discipline, quel regard vous portez sur ces évolutions, ces innovations fulgurantes auxquelles on assiste depuis maintenant quelques mois, quelques années, notamment liées à l'intelligence artificielle? Est-ce que, là cette fois-ci, non pas en tant que spécialiste de ces questions, mais en tant que simple, je dirais, humain ou citoyen du monde, quel regard vous portez sur ces évolutions? Est-ce que l'humain reste maître de tout ça? Peut-il rester maître de ces évolutions? Et si on envisage le scénario du pire, est-ce qu'il pourrait en perdre le contrôle?
Moi, je dirais oui, parce que déjà, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Et il peut perdre le contrôle, oui et non, parce que c'est lui qui contrôle un peu tout ça. C'est lui qui crée des IA, que ce soit ChatGPT, que ce soit des robots, que ce soit tout ce qui va avec. Et je pense que il peut perdre le contrôle dans le sens où, s'il dérape un peu. Mais dans le sens où il garde toujours la main, je pense pas, non.
Oui, donc ça veut dire que si jamais il y a perte de contrôle, ou en tout cas dérapage, comme tu dis, ce sera la faute de l'humain. Parce que le scénario du pire, c'est de se dire que c'est la machine qui prend le contrôle d'elle-même.
Je ne suis pas trop d'accord avec Rodson dans
le
sens
qu'il y a un débat.
Il y a eu Google qui a mis en place un projet, j'ai plus la date, qui a dit à une intelligence artificielle de décoder la discussion entre deux autres intelligences artificielles et qui a dit à ces deux autres intelligences artificielles d'inventer un langage, en fait.
D'accord.
Et sans avoir d'algorithme pour leur dire comment faire, elles ont réussi à développer le langage elles-mêmes.
D'accord.
Donc, elles se parlaient ensemble sans que la troisième puisse... sans que l'humain intervienne et sans que l'autre intelligence artificielle puisse décoder ce qu'elle disait, en fait.
D'accord. Oui, donc, effectivement...
Donc, quand on pense à ça, on peut se dire...
Oui, c'est un exemple concret et frappant, quand même.
C'est ça.
Oui.
Et également, on sait que l'homme est connu pour faire des belles choses, mais également tirer le pire de...
Il est capable de construire comme de détruire facilement.
C'est ça.
Tout à fait. Donc, on dépasse les aspects vraiment techniques et technologique, mais là, ça renvoie même à des questions métaphysiques, sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Si on rentre un peu dans le concret de ce que vous faites ici à la Manu, est-ce que vous pouvez nous décrire un ou deux projets phares que vous avez, vous parliez de mini-projets, voilà, des choses où vous avez senti que vous apportiez quelque chose et que vous appreniez quelque chose en même temps?
Ben, là, il n'y a pas très longtemps, on a fait un projet sur du Java. C'était la mise en place d'un forum de discussion.
Enfin, forum où Java, pour les auditeurs, c'est aussi un langage.
Un langage,
voilà.
C'est ça.
D'accord.
Il a compris Frédéric. C'est un langage, oui, c'est ça. Du coup, bah, on était encore novice là-dessus. Du coup, on a eu à apprendre avec deux ou trois exercices. On a eu à mettre en place un forum. Et comme d'habitude, on a travaillé en groupe avec une façon de gérer un projet aussi.
D'accord.
Et on a aussi fait un autre projet en début d'année qui était plutôt côté management. Donc en fait, on a dû réaliser par groupe de deux personnes ou trois personnes un projet de A à Z. Donc de savoir ce qu'on allait faire comme projet. Nous, on avait fait un site sur la maçonnerie, le carrelage, tout ça. Et donc, il fallait faire le design, faire la communication, voir qui ça devait toucher, s'organiser entre nous, mettre des outils en place, faire coder un site web.
Oui.
Donc, c'était pas très avancé parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais c'était surtout l'aspect management et communication qu'on a travaillé.
D'accord. Et l'interaction dans une équipe.
Oui,
savoir
c'est ça.
Qui fait quoi, c'est qui ça, prend le lead, comment,
c'est ça. C'est ça,
comment on fait passer ses idées. Très bien. Parfait. Et donc, vous terminez votre apprentissage à la fin de vos études, donc en Master 2, et ensuite, voilà, vous enchaînez. Alors, vous pensez rester dans les structures dans lesquelles vous êtes ou vous avez envie de... Alors, tu parlais de bio... de bio digital ou de bio numérique.
Bio-informatique.
Donc là, tu vas cibler des entreprises qui sont dans ce domaine.
Alors moi, en fait, j'aimerais bien retourner au Canada.
Ah.
Donc pour ça, déjà, il faut économiser. Et je pense qu'il faut quand même que j'incorpore plus de compétences. Si mon entreprise, donc, qui est Thales, veut bien m'embaucher, je ne dirais pas non. Et s'ils peuvent pas m'embaucher, ou qu'ils ne veulent pas.
Si l'opportunité, en tout cas,
une
aventure canadienne s'ouvre,
c'est ça.
Tu fonceras.
Voilà.
Et pour toi, Rodson?
Pareil de mon côté, si Total Energy veut me garder, je resterai. Enfin, l'émission, il me plaise bien. Et au cas contraire, je trouverai. Mais j'ai pas d'entreprise spécifique.
D'accord. C'est plus exercer le métier pour lequel tu t'es formé et qui te passionne.
Exactement.
Quelle qu'en soit la structure, finalement, tu t'es prêt à tester la start-up comme le grand groupe, quoi. Ok.
Ça peut être l'agriculture, absolument.
Bon, parfait. Bah, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Merci beaucoup de votre disponibilité, de vos réponses qui nous éclairent sur à la fois ce que sont ces enjeux liés au numérique, digital, à l'intelligence artificielle, et puis quel rôle vous serez capable de jouer. Je vais finir par la dernière question traditionnelle qu'on pose à tous nos invités. Quelle girafe vous pensez être? Alors, on commence par qui?
Je vais bien commencer. c'est une question originale, je trouve déjà.
Pour le moins.
Si je devais choisir, je serais une girafe curieuse et observatrice. Pourquoi? J'aime toujours prendre de la hauteur pour voir l'ensemble d'une situation avant de proposer des solutions. Cela me permet de ne pas me mettre dans la boue tout de suite.
C'est tout à fait stratégique.
Et moi, de mon côté, je pense que je serai un girafon. Parce que, selon moi, on a toujours quelque chose à apprendre, comme les bébés girafes.
Eh oui.
On a besoin de nos pairs pour se développer. Donc, en informatique, c'est vraiment la communauté informatique est très importante. Et moi, je sais que je m'appuie beaucoup sur ce que les autres font pour apprendre chaque jour. Et également, un girafon... il vient de commencer à vivre, il a les pattes qui tremblent un petit peu. Donc il faut qu'il prenne confiance en lui déjà. Et les pattes qui tremblent, ça me fait penser à tous les langages qui peuvent exister.
Oui.
Et
il
faut en consolider, voilà. Donc voilà.
C'est une définition très intéressante et une métaphore très, très juste. Ben écoutez, merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à remercier aussi nos auditeurs d'avoir écouté cette interview, que je rappelle donc avoir menée avec Rodson et Maeva, étudiants en master à la Manu sur le campus du Havre. Donc merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de mon émission Autour d'eux, autour d'eux. Vous pouvez nous retrouver sur notre application, bien sûr, que vous connaissez maintenant, Radio Girafe Normandie, téléchargeable sur Apple Store ou Google Play. Je vous rappelle que vous pouvez également adhérer à Radio Girafe et devenir membre de notre association. Vous pouvez effectuer votre inscription, votre adhésion via l'appli ou le site radiogirafenormandie.fr. Je vous remercie, je suis Frédéric, le F de Girafe, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.
Merci à vous. Merci.